I say. Le chômage vous occupe, le chômage vous préoccupe. Occupez les AMP, occupez les AMP.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission des chômeurs et des précaires. Ce soir reçoit donc le PIAF et Attaque pour son émission mensuelle avec donc Magali, Pierre.
Bonjour.
Bonsoir.
Et ce soir, notre invitée, Florence Touquet, de l'Union SNUI Sud Trésor Solidaire. Ça y est, je l'ai dit, c'était difficile, mais c'est fait. Alors ce soir, le thème principal de l'émission, ce sera la fiscalité. Un débat à l'intérieur du débat présidentiel, même s'il est moins présent que les petites phrases dans ces premières semaines de campagne ou de pseudo-campagne. Alors, premier thème, il va être extrêmement simple, c'est de l'actualité toute fraîche, c'est que je ris de me voir si belle en ce miroir. Maintenant, jouons au jeu des sept erreurs, je vous le refais. Que je ris de me voir si belle en ce miroir. Et oui, la France vient de perdre son troisième A grâce à la politique très avisée de notre président. Alors, après s'être gargarisé de ses 12 sauvetages de la zone euro et du sauvetage du triple A, nous allons voir ce que nous réserve le ténor de l'Élysée. Deuxième thème, les médias, puisqu'on est dessus. Les médias sont toujours aussi excellents ces derniers mois, avec la campagne On s'en rend compte. Et au mois de décembre, on a eu la possibilité d'apprécier toute la vigueur et la qualité critique de nos médias avec le dossier russe. Effectivement, en Russie, il y a eu des élections législatives. Vladimir Poutine, qui n'est plus président, mais qui pourrait l'être à nouveau, puisqu'il se représente après un passage par le poste de Premier ministre, vient de perdre ses élections malgré un trafic massif dans les urnes. Des manifestations ont eu lieu à Moscou. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est amusant, c'est d'établir la comparaison entre le traitement médiatique de ce qui se passe en Russie et le traitement médiatique de ce qui se passe en France. Si on écoute nos journalistes, Poutine est un affreux méchant. C'est vrai, tout le monde est d'accord, Poutine est un affreux méchant. Deuxième chose que nous voyons dans la presse, Poutine n'est pas vraiment un démocrate. C'est une démocratie, mais qui marche un peu sur la tête. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que les mêmes journalistes, lorsqu'ils parlent d'un autre pays que nous nommerons un peu plus tard, un pays un tout petit peu plus à l'ouest en Europe, n'ont pas exactement le même sens critique. Exemple, la Russie souffre d'une corruption endémique. C'est vrai. Mais si on regarde ce petit pays un peu plus à l'ouest, on constate qu'il y a l'affaire Woerth-Bettencourt, l'hippodrome de Compiègne, les comptes de l'EHPAD, le bourbier des Hauts-de-Seine, l'affaire Karachi, etc., etc. Et là, bizarrement, ce n'est plus du tout aussi méchant. Autre exemple, les libertés publiques. Les libertés publiques sont bafouées en Russie, c'est vrai. Tout le monde le dit, tout le monde le confirme. La presse en a fait écho, c'est très très bien. Seulement, dans le petit pays un peu plus à l'ouest de l'Europe, on constate qu'on arrête des enfants à la sortie des écoles, on constate que des gens sont détenus arbitrairement, simplement parce qu'ils n'ont pas de papiers ou simplement parce qu'ils n'ont pas les papiers que les policiers auraient voulu voir. Des gens décèdent dans les commissariats avec des crises cardiaques totalement bizarroïdes. Et là, par contre, nous sommes dans une vraie démocratie. Alors toujours dans le même genre, le mélange des genres en Russie est très choquant. Le président russe domine les médias. C'est vrai, c'est très mal et c'est très pas beau. En France, on ne verrait pas ça. Ah pardon, je l'ai dit. C'est le petit pays un peu plus à l'ouest. Alors en France, on ne verrait pas ça. C'est vrai que le filleul de Martin Bouygues est le fils de Sarkozy. Martin Bouygues, c'est TF1. C'est vrai que Lagardère est juste qualifié par le président de meilleur ami et frère. C'est vrai que Serge Dassault, qui n'est que député sénateur UMP, pardon, est le directeur de l'un des trois premiers quotidiens français. Il n'y a pas de mélange des genres en France. Évidemment, ce sont des choses qu'on ne peut voir qu'en Russie. Et dernier exemple, les rapports entre un État et les dictateurs. Poutine est un affreux méchant, on ne le dira jamais assez. Il a soutenu Assad en Syrie, Assad qui tue tout le monde. C'est très pas beau, c'est très méchant. On oublie, dans les médias en France, ça on le dit, mais on oublie de rappeler que Le même affreux Assad a été invité personnellement par Nicolas Sarkozy pour le défilé du 14 juillet et que nos braves pioupiou républicains ont dû défiler devant Assad. Mais attention, Sarkozy est une fine mouche devant Assad, mais aussi devant Moubarak, devant Ben Ali. Et que la même fine mouche a invité en grande pompe Kadhafi. Donc, retournons dans nos grimoires et réfléchissons sur le traitement médiatique.
Alors la critique des médias de nos journaux n'est peut-être pas quand même la même que celle de Russie, vu que nous avons une certaine liberté de la presse. La preuve, en sortant de ce studio, Jean-Marc ne sera pas arrêté par quiconque.
Oui, alors là tu parles vite. Hein.
Il va pouvoir même enchaîner immédiatement sur une autre critique, toujours sur le traitement médiatique de l'actualité, mais en rapport celle-ci avec la campagne électorale, qui en ce moment est plus basée sur des petites phrases que sur du fond politique.
Alors là aussi on repart, on va mettre nos mémoires en marche. Casse-toi pauvre con. Casse-toi pauvre con, c'est de la littérature. C'est de la littérature et c'est un terme de haute volée. C'est de la littérature présidentielle qui met en valeur la France, qui représente bien donc la fonction présidentielle. Par contre, une phrase comme sale mec, là c'est insultant, c'est horrible. C'est tout juste si on ne devrait pas demander la dégradation civique du candidat Hollande. Ce sont les deux poids deux mesures des gens de l'UMP. Ça, c'est à peu près anecdotique. L'UMP essaye de faire feu de tout bois pour descendre le candidat d'en face, même avec des arguments, disons, de second ordre. C'est pas très joli, mais c'est de bonne guerre. Là où c'est plus gênant, c'est que la presse rentre dans le jeu et, dans les jours qui suivent, ne parle que de ça, à la place de parler du fond et des véritables dossiers concernant l'élection présidentielle. C'est ça qui est le plus grave, peut-être. Ce n'est pas d'entendre Frédéric Lefebvre sortir sa billetmanerie. Il est payé pour ça, je crois, par l'UMP. Mais c'est que la presse embraye tout de suite et s'en fasse l'écho.
Alors l'écho, nous, on va pas le faire. On va plutôt parler du fond. Et le thème du jour, c'est les impôts. Et on peut même faire une petite phrase, mais celle de Joe Dassin.
Avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, pour chanter la pêche au moule. Et pour pas payer la peau, il faut être à Monaco.
Alors, il faut peut-être pas naître à Monaco pour payer d'impôts. On va voir ça tout à l'heure sur les notions de paradis fiscaux et autres. Mais le premier thème que l'on va aborder avec notre invité Florence Touquet, qui est donc secrétaire générale du syndicat des impôts national, pardon, secrétaire nationale du syndicat unitaire des impôts du Trésor. Nous allons aborder dans un premier temps un thème sur une fiscalité plus équitable. Nous allons parler de l'impôt sur revenu, de la TVA, etc. Mais peut-être, juste avant de lui donner la parole, de prendre quelques mots sur la redistribution des richesses et justement le rôle essentiel de l'impôt pour cette redistribution. En effet, si le budget de l'État est assez énorme, 750 milliards de dépenses pour 700 milliards de recettes, cet argent n'est pas dépensé quand même n'importe comment. Il y a une réflexion sur une loi de finances qui est mise en place. Et une grande partie des décisions a pour but de réduire l'imposition a pour objectif de permettre un rebasculement par les prestations sociales, par une reversion grâce aux services publics, de l'argent gagné par les plus riches vers les plus pauvres. Avant redistribution, le niveau de vie des 20% les plus aisés est au minimum 6,9 fois plus élevé que celui des 20% plus modestes. Après l'utilisation des impôts, on espère à bon escient, il ne l'est plus que de 3,8 fois. Alors les impacts sont forts. Par exemple, les prestations sociales permettent de réduire cet écart de manière importante. Les prestations sociales expliquent pratiquement 32% de réduction de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et l'impact des services publics, en proposant une école gratuite, en proposant des logements sociaux, des remboursements en soins, font quasiment aussi 70% de cette réduction de l'écart des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, à l'inverse, les impôts indirects comme la TVA font l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est finalement encore de l'argent qui touche tout, enfin des impôts qui touchent tout le monde et qui remettent la bascule dans le sens inverse, c'est-à-dire que après les taxes indirectes que sont la TVA et les taxes sur les produits pétroliers, on a un rapport qui remonte de quelques centièmes de pourcent. Voilà, donc c'était juste quelques chiffres pour redire ce rôle essentiel de l'impôt dans notre société, même s'il est souvent décrié, on vient de le voir dans une chanson. C'est un vieil adage. Or, c'est là que se refait naturellement une notion d'équité dans la société. Alors, est-ce que cette fiscalité est très équitable ? C'est le thème que nous allons évoquer avec Florence, et entre autres, déjà voir l'impact de ces différents types d'impôts, et entre autres, l'impôt que l'on juge être le plus équitable aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu. Mais est-ce que c'est bien le cas ?
Alors, pourquoi on juge que l'impôt sur le revenu est le plus équitable ? Déjà, il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux de l'impôt, qui remonte en fait à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1793, donc l'article 13 qui fonde le fondamental de l'impôt, à savoir que chacun doit contribuer au financement de l'action publique en fonction de sa capacité contributive. Donc à partir de cet énoncé, on peut chercher à taxer les revenus. Alors, quel type de revenus et comment ? Donc, en fait, l'idée d'avoir un impôt équitable passe effectivement par taxer les revenus, donc de façon directe. Et parmi les revenus, pour la majorité sûrement de nos auditeurs, il s'agit des traitements et salaires. Donc, l'impôt sur le revenu est un impôt qui taxe les revenus d'activité, mais pas que. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs assiettes dans l'impôt sur le revenu. Donc, les revenus d'activité, les revenus financiers, des revenus sur la propriété, les revenus fonciers. C'est à peu près la base de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, l'IR, pour nous, doit être taxé. Alors, une fois qu'on a déterminé l'assiette des revenus qui doit être taxée, on se demande comment on le taxe. Donc, est-ce qu'on le taxe avec un niveau une taxation proportionnelle ou une taxation progressive? Donc, qu'est-ce qu'on appelle une taxation progressive? C'est le système qui permet de taxer les revenus en fonction de leur niveau, et on taxe plus les revenus en fonction que les revenus deviennent plus importants. La taxation proportionnelle, c'est de taxer avec un taux identique tous les revenus. Donc, par exemple, quelqu'un qui gagne 10 000 euros, si on prend un taux d'impôt, par exemple, de 15%, sera taxé à 10 000 euros par 15%. Ça donnera 1 500 euros, si je ne me trompe pas. Si on augmente 20 000 euros, on taxera à 15%, on fait le calcul, on voit ce que ça donne. L'idée de l'impôt sur le revenu progressif, c'est que la tranche entre 0 et 10 000 sera taxée, par exemple, à 5%. Donc 10 000 par 5, ça fera 500 euros. La tranche entre 10 000 et 20 000 euros sera taxée, par exemple, à 7%. Donc on fait le calcul. Donc en fait, on taxera en fonction de l'augmentation de l'accroissement des revenus. Donc à la date d'aujourd'hui, est-ce que l'impôt sur le revenu est égalitaire et équitable ? Eh bien, on se rend compte que non. Pourquoi ? Parce que depuis un certain nombre d'années, on a modifié le système d'impôt sur le revenu et on a à la fois réduit le nombre de tranches d'imposition et on a baissé ce qu'on appelle les taux marginaux d'imposition. Donc en fait, dans le barème d'impôt sur le revenu, on a plusieurs tranches, et à chacune des tranches, on associe un taux. Or, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a 5 tranches d'impôt sur le revenu, donc 5 taux marginaux qui s'appliquent sur ces 5 tranches. Or, antérieurement, dans le passé, si on remonte par exemple dans les années 80, on avait 13 tranches d'impôt sur le revenu, et avec des taux marginaux extrêmement élevés, puisqu'on atteignait les...
C'était un taux qui pouvait effrayer, et d'ailleurs, on a toujours entendu les très riches, et parfois même les gens les plus célèbres d'entre eux, nos stars qui occupent les télévisions, dire, vous imaginez ce que je peux donner à moi seul directement en impôt direct, parce que souvent, parfois, les stars, par exemple, ont des revenus en tant que salariés, et donc sont très bien imposés, ils rentrent dans une tranche, ils ont un gros chiffre, donc, de taux marginal qui les impose. Alors que d'autres types de revenus, eux, sortent carrément de cette gamme.
Alors, effectivement, donc en fait, là, actuellement, la dernière tranche de taux marginal est à 41%. Donc, elle était à 40% jusqu'il y a l'année dernière. On a rajouté un 1% supplémentaire de taux d'imposition sur la tranche marginale. Et on a rajouté une taxation supplémentaire. Alors, en fait, on se rend compte que ne passe pas dans le calcul d'impôt sur le revenu la totalité des revenus d'activité ou des revenus financiers. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, il serait extrêmement important de faire que les revenus financiers, donc les dividendes d'actions, par exemple, les intérêts sur les produits financiers, soient taxés à l'impôt sur le revenu et entre dans le calcul de l'assiette. Or, il faut savoir que les gens qui ont des revenus élevés regardent leur impôt sur le revenu, donc la tranche d'impôt marginal à 41%, et le taux de prélèvement libératoire, puisque ça s'appelle comme ça, qui permet en fait de payer un impôt qui est libératoire et qui leur permet d'avoir un impôt plus faible. Donc le taux actuellement, il est modulable en fonction de la nature de l'impôt. Pour 2012, les revenus de dividendes seront taxés normalement à 21%, les revenus de capitaux mobiliers à 24%. Donc on voit déjà qu'il y a un écart. On peut se demander pourquoi cette année un écart a été maintenu sur ce type de revenu. Il faut savoir également que dans le cadre de l'impôt sur le revenu, donc suite aux réformes qu'on a fait ces dernières années, entre les baisses de barème, de nombre de tranches de barème et les baisses de taux marginal, on a perdu l'équivalent de presque 15 milliards d'euros rien que par ces baisses de tranches. Donc cumulées depuis 2000, on atteint des sommes qui cumulées s'élèveraient à environ 100 milliards d'euros de baisse d'impôts. Or, il faut savoir que quand on regarde les personnes qui ont bénéficié de ces baisses de tranches et de taux marginal, ce sont surtout les 10% des foyers les plus aisés en France et majoritairement encore les 0,1%, enfin le 1 centième de ménages les plus aisés. Par exemple, j'ai quelques chiffres. Si on regarde la baisse de l'impôt qui est intervenue en 2002 sur l'impôt sur le revenu, on a 5% de cette baisse qui s'est répartie, qui a bénéficié principalement aux 10% les plus riches à hauteur de 69% du montant des baisses d'impôt. 1% des personnes les plus aisées, des ménages les plus aisés, ont réussi à obtenir 31% de ces baisses d'impôts. Les chiffres, par exemple, en 2005, baisse du barème, les 10% des ménages les plus aisés ont obtenu 40% de la mesure. Donc on voit que la répartition de l'impôt est inégalitaire. Il faut savoir qu'à cette répartition inégalitaire s'ajoute ce qu'on appelle des niches fiscales ou des dépenses fiscales ou des cadeaux fiscaux, donc pour les particuliers. Ces niches fiscales, il faut savoir qu'elles ont un intérêt. L'impôt a un rôle incitatif. Donc, ce rôle incitatif permet, dans certains cas, de financer l'activité économique. Par exemple, si je cite la prime pour l'emploi, le livret A, ces niches fiscales sont sûrement justifiées, apparaîtront justifiées. Quand je dis livret A, c'est les revenus issus du livret A, les intérêts des livrets A ne sont pas taxés. Identique sur les plans d'épargne logement, sur les SEL. Donc, on ne taxe pas les intérêts de ce type de produit. Par contre, si je vous parle, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? La réduction d'emploi le plafond de la réduction pour emploi à domicile. Effectivement, la mesure pour emploi à domicile est extrêmement intéressante dans le cadre actuel. Si on s'intéresse aux personnes, par exemple, qui demeurent à domicile dans le cadre de leur dépendance, ça permet de faire porter la charge sur l'ensemble des contribuables. Par contre, le plafond qui est important bénéficiera principalement aux ménages les plus aisés en termes de réduction d'impôts. Donc il y a des niches fiscales comme ça à l'impôt sur le revenu qu'il faut étudier de près et voir si on les maintient ou si on les maintient pas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'impôt sur le revenu ?
Donc la disparition des tranches, en quelque sorte, c'est un moyen de transférer la charge fiscale des gens les plus riches vers les classes moyennes.
Vers les classes moyennes et les classes les moins aisées. Effectivement, c'est la réalité du système dans lequel on est. Donc, effectivement, une des évolutions de l'impôt sur le revenu serait de remettre un nombre de tranches plus élevées, avec des taux marginaux associés qui vont très haut. On pourrait envisager des taux d'imposition de 60-70% pour la dernière tranche d'impôt sur le revenu. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah, c'est énorme, mais quand je dis dernière tranche, ça veut dire qu'auparavant, on a taxé les revenus à des niveaux plus faibles. Donc, en fait, la dernière tranche, qui actuellement est supérieure à un peu plus de 70 000 euros, si on augmentait le nombre de tranches, on faisait une autre répartition du barème, bah effectivement, les personnes qui ont des revenus supérieurs, je ne sais pas, 70 000, 100 000, 150 000 euros, un seuil à déterminer, les revenus qui arrivent au-dessus de cette somme-là seraient taxés à un taux qui pourrait être de l'ordre de 60 ou 70%. Ça leur laisse quand même des marges de manœuvre sur le reste de leurs revenus pour consommer, pour financer l'activité économique, pour épargner, pour accumuler du patrimoine.
C'est en quelque sorte, je crois qu'il n'y en a jamais assez, parce qu'on a vu ce genre de démarche aux États-Unis et en Angleterre dans les années Thatcher et Reagan, avec des taux d'imposition des riches qui ont baissé en flèche, et ça n'a pas empêché les riches américains ou les riches anglais de continuer à investir dans les paradis fiscaux ou de s'exiler fiscalement en Suisse, à Monaco, pour payer encore moins. Et malgré la diminution des taux les plus élevés en France, on a quand même toute l'équipe de tennis de France qui réside en Suisse, et à chaque Coupe Davis, on a des drapeaux suisses sur le terrain. Donc peut-être qu'il y a aussi une question d'éducation à la citoyenneté.
Je pense que c'est effectivement, il faut revenir sur les fondamentaux et revenir au fait qu'effectivement chacun doit participer au financement de l'action publique, à la réduction des inégalités, à inciter au développement de politiques économiques, pourquoi pas du développement durable, en fonction de ses capacités contributives. Et il faut rétablir et renforcer l'impôt sur le revenu.
Alors, l'impôt sur le revenu, c'est un des types d'impôts. On a aussi évoqué l'idée des niches fiscales, mais quelque chose que je crois personne ne peut éviter, c'est les impôts indirects. Donc TVA... et principalement les taxes sur le pétrole, enfin pour ceux qui ont des voitures, ça existe encore.
Alors effectivement, on appelle ça des impôts indirects parce que ce sont des impôts à la consommation, la TVA ou la TIPP. Alors, je n'ai pas cité de chiffres, mais je vais vous en citer un, puisque ça serait quand même bien que vous ayez des éléments de comparaison. La TVA rapporte actuellement, en tout cas dernier chiffre disponible, on va dire pour 2010, en gros 127 milliards d'euros d'impôts, la TVA. L'impôt sur le revenu, à comparer, on est à un chiffre inférieur à 50 milliards, on va dire 47, aux alentours de 47 milliards. Donc on voit l'écart. Donc la TVA, tout le monde paye de la TVA. Dès que vous consommez, vous payez de la TVA, puisque comme son nom l'indique, c'est une taxation à la valeur ajoutée, mais en fait, c'est le consommateur, l'utilisateur d'un service qui va payer la TVA. Alors la TVA, en France, on a plusieurs taux. On avait un taux aux alentours de 2%, un taux à 5,5% et un taux à 19,6%. Dans le cadre de la loi de finances actuelle, le taux de TVA de 5,5% va être augmenté à 7%. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ça? Eh ben, on dit que la TVA est un impôt qui est un impôt quelque part injuste, puisqu'il taxe tout le monde à partir du moment où les personnes consomment.
Donc, excuse-moi, mais c'est un impôt génial, parce que c'est le seul impôt qui permet de taxer les pauvres et même les clochards.
Alors, c'est effectivement l'impôt qui permet de taxer tout le monde. Et pour la plupart des personnes, celles-ci ne s'en rendent pas compte. Il faut savoir qu'à l'impôt sur le revenu, on a à peu près 50% des 36 millions de foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui sont non imposables. Sauf qu'en matière de TVA, ils vont acheter une boisson, ils vont acheter à manger, ils vont acheter je ne sais pas quoi, ils vont payer de la TVA dessus. Or, effectivement, là, pour le coup, c'est un impôt inégalitaire, puisque les foyers ou les contribuables ou les citoyens qui se retrouvent avec des revenus faibles, qu'on qualifierait de ménages pauvres ou peut-être même les classes moyennes, vont passer une grande partie de leurs revenus dans la consommation. Alors pourquoi c'est injuste? Eh bien, parce que eux, ils vont payer de la TVA sur la totalité de l'utilisation de leurs revenus en consommant. Par contre, les personnes et les ménages aisés qui ont des revenus de sources diversifiées et qui ont des moyens vont pouvoir placer une partie de leurs revenus, donc notamment sur des produits financiers qui risquent d'alimenter tout ce qui est spéculation financière. Bon, c'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même via les marchés financiers. Mais bon, peuvent placer une partie de leurs revenus et ne payent pas de TVA sur leurs placements. Donc, en fait, eux, ils vont pouvoir voir leur source de revenus s'accroître puisqu'ils vont ou investir dans l'immobilier ou investir dans des placements financiers qui peuvent être sources de revenus complémentaires, alors que des ménages pauvres ou des ménages dans les classes moyennes basses verront la plus grande partie de leurs revenus passer dans la consommation et donc seront contributeurs à la TVA. Donc c'est un impôt par nature inégalitaire. Donc d'ailleurs, dans le cadre des réseaux militants, généralement on demande à ce que les biens de première nécessité soient en partie exonérés de TVA.
Notamment les produits de base alimentaires.
Alors les produits de base alimentaire étaient taxés en grosse partie à 5,5. Donc là, avec l'augmentation du taux de TVA à partir de cette année, la possibilité de consommer sera réduite à hauteur de l'augmentation entre 5,5 et 7%.
Sachant que le taux touche aussi les produits culturels et les produits de consommation à une époque où on voit de plus en plus de gens qui ont des problèmes pour ne serait-ce que s'alimenter.
Donc en fait, à un moment où tout le monde parle de pouvoir d'achat, l'une des grandes promesses de Sarkozy en 2007 qu'il a si bien réalisé, donc au moment où on aurait besoin de dégager du pouvoir d'achat pour relancer l'économie, la TVA va encore ponctionner les ménages et ralentir l'économie.
Alors effectivement, la TVA risque d'avoir un effet plutôt de réduction de l'activité économique puisque le pouvoir d'achat n'augmente pas, les salaires n'augmentent pas. Donc effectivement, il vaudrait peut-être mieux dire augmentons les salaires plutôt que la TVA.
Donc en fait, il faudrait augmenter considérablement les salaires pour augmenter la capacité de l'État à récolter des impôts, qu'ils soient directs ou indirects.
Ça serait une bonne idée, effectivement, je pense.
Alors, si on veut maintenant se pencher sur un peu le passé de ces dernières années, à peu près tout ce qu'on vient d'essayer de préconiser, le contraire a été globalement fait. C'est-à-dire, si on regarde les réformes sur la disparition de l'impôt sur le revenu sur les grandes fortunes, l'impôt sur les grandes fortunes, tout court, les changements de tranche pour l'impôt sur les revenus, l'augmentation de la TVA, on voit globalement un transfert des réformes pour permettre aux plus riches de payer globalement moins d'impôts. Est-ce que j'analyse ça aussi simplement ou...
Alors effectivement, à notre sens, l'impôt qui doit être un outil de redistribution à la fois ce qu'on appelle horizontal et vertical, c'est-à-dire horizontal au sein d'un même niveau de revenu, on doit en fonction de la politique familiale ou de la situation familiale permettre que en fait on puisse faire des redistributions de revenus
de la solidarité,
qu'elle soit horizontale ou verticale. Donc en fait, vertical, c'est des ménages les plus aisés vers les ménages les moins aisés, et ben on se rend compte que les réformes de ces dernières années ont plutôt mis ça à mal. Donc si on prend l'ISF, effectivement, l'impôt sur la fortune a été supprimé L'impôt sur la fortune a été modifié entre 2011 et 2012. Donc en fait, l'idée, c'est que contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, puisque je parlais de taux éventuellement marginal qui pourrait aller à 60 ou 70%, avec le bouclier fiscal, la mise en place d'un bouclier fiscal, on a décidé qu'un ménage ou un contribuable, enfin un foyer fiscal, donc on va dire un ménage qui contribue ou un foyer fiscal, ne devait pas voir ses revenus taxés à hauteur de plus de 50%. Donc on a créé ce qu'on appelait un bouclier fiscal. Donc via la création d'un bouclier fiscal, on a restitué de l'impôt. Et dans le même temps, on avait ce qu'on appelait un impôt sur la fortune. Donc on a décidé, suite aux nombreuses critiques concernant le bouclier fiscal, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on a décidé de modifier l'impôt sur la fortune. Donc l'impôt sur la fortune qui, en 2009, a dû rapporter à peu près... Non, c'est 2010, 4,3 milliards ou 4,5 milliards d'euros selon les évaluations. On a décidé de modifier le barème. Donc le barème pour 2012, ça sera deux tranches. Et on a décidé d'augmenter le seuil. Donc les contribuables étaient taxés quand ils avaient un patrimoine conséquent, que ce soit un patrimoine immobilier, un patrimoine mobilier, des patrimoines financiers, à partir d'environ, on va dire, 800 000 euros. Donc de 800 000 euros jusqu'à l'infini, on va dire, enfin en fonction des niveaux de patrimoine détenus par les contribuables français, on avait un barème progressif. Or, on l'a réduit. On est passé là aussi de plusieurs tranches à deux tranches. Et on commence à taxer l'impôt les contribuables à partir d'1,3 million de revenus. Enfin, pas de revenus, de patrimoine disponible. Donc, les personnes qui ont plus d'1,3 million de patrimoine vont se voir taxer à 0,25%, au-dessus de 3 millions à 0,5%. Antérieurement, le barème commençait plutôt à 800 000 euros avec un barème progressif. Donc, il faut savoir que par ce biais-là, on a perdu environ 300 000 contribuables qui entraient dans la base taxable en termes de nombre et qu'on risque d'avoir un déficit de recettes fiscales qui est chiffré selon les évaluations aux alentours de 2 milliards par le nouveau système mis en place. Donc l'écart entre les 4 milliards 3, 4 milliards 5 et les 2 milliards en fait est compensé par la suppression du bouclier fiscal et par d'autres mesures dont certaines ne seront pas forcément pérennes puisqu'il y en avait une qui était liée notamment aux paradis fiscaux qui était la cellule de régularisation qui a dû rapporter 700 millions de mémoire en 2010 pardon, il faut que je me remette dans les bonnes années et en 2011 1,2 milliard.
Alors, donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai lu à plusieurs endroits que en fait la suppression du bouclier fiscal qui a été finalement arrachée par l'opinion publique au gouvernement actuel a été présentée comme une avancée dans l'équité fiscale et qu'en fait les conditions de réaménagement des impôts des plus riches faisaient que les plus riches allaient payer encore moins d'impôts même avec la suppression du dit bouclier fiscal. Est-ce que c'est à peu près ça?
En fait, il y a un écart, c'est ce que je viens de vous expliquer, donc il faut revoir. Par contre, effectivement...
C'était un petit peu technique. Hein.
C'était un peu technique, ouais. Alors,
c'est pour ça que j'essaye de poser ma question de manière assez simple.
Ouais. En fait, entre la suppression du bouclier fiscal et la modification des tranches du barème de l'ISF et des taux d'imposition, on a une perte de rentrée fiscale qui s'élève à peu près à 2 milliards. Donc, il faut la compenser par d'autres choses.
Donc, ce qui a été présenté comme un réajustement...
C'est un réajustement, puisqu'en fait...
Justement, encore une fois, en faveur des riches. Donc, on supprime psychologiquement le bouclier fiscal, mais les riches vont être encore plus riches.
Ils ont bénéficié largement du bouclier fiscal, puisqu'en fait, le bouclier fiscal a rapporté sur les dernières années, sur la période où il a été mis en place, entre 600 millions d'euros et 900 millions d'euros aux personnes qui pouvaient en bénéficier. Donc, parmi les personnes qui pouvaient en bénéficier, il y avait des personnes qui étaient très faiblement imposées, voire pas imposées du tout, puisqu'ils étaient bénéficiaires de revenus de minimum d'insertion ou de RSA. Par contre, il faut savoir qu'il a très largement profité à une minorité des contribuables, un peu aux alentours de 900, un peu moins selon les années, 800 et quelques, 900 contribuables, on va dire moins de 1000 contribuables, qui ont des U et qui ont bénéficié de restitutions d'impôts à hauteur généralement de plus de 300 000 euros. Or, si vous rapprochez ces 300 000 euros du niveau d'un SMIC, c'est les calculs que j'ai refait tout à l'heure, selon les années, entre 30 et 35 années de revenus annuels d'un SMICard. Donc, vous pouvez voir l'état des lieux, la comparaison. Il faut savoir que, pareil, sur 2007, quand le président Sarkozy est arrivé, en même temps que était créé le bouclier fiscal, on a supprimé aussi ce qu'on appelle les droits de succession. On a augmenté, puisque c'est de la taxation des revenus du patrimoine, donc on a augmenté le niveau d'abattement dans le cadre des donations et des successions. Donc en fait, un couple pouvait transmettre avec un abattement avant la modification du texte 50 000 euros d'abattement pour monsieur et madame à ses enfants, donc on va dire 100 000 euros d'abattement sur une succession. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on est passé à un abattement à 150 000 euros. Donc 150 000 euros par deux, ça fait 300 000 euros. Vous voyez ce que ça peut donner en termes de redistribution des richesses. Donc en fait, on a un système qui est devenu assez inégalitaire compte tenu des réformes faites par le gouvernement actuel.
Alors ça conclut malheureusement le thème, on voulait parler d'impôts plus équitables et on vient de voir que les dernières réformes sont allées dans le sens inverse. Mais on peut essayer pour payer moins d'impôts d'écouter les conseils des charlots.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer. Faut nous cacheter ou nous cacheter claquettes. Ton trombonnet, ta clarinette. Si tu ne veux pas payer la peau, cache ton piano.
On se retrouve pour l'émission Mode d'emploi qui est animée aujourd'hui par une équipe de militants intermondialistes et de membres du journal Le Piaf. Vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel. Et on reçoit aujourd'hui Florence Touquet, secrétaire nationale du syndicat unitaire des impôts et du trésor. Et nous étions en train de parler tout à l'heure de l'égal de la d'une fiscalité équitable et nous allons maintenant aborder les sujets d'actualité et très exactement celui de la TVA sociale. Et bon, une première question très simple, mais qu'est-ce qu'il y a de social dans une augmentation de TVA ?
Alors, vu ce que je vous expliquais avant la pause musicale, je pense qu'il n'y a rien de social dans la TVA. Alors, pourquoi on a appelé ça la TVA sociale ? En fait, puisque l'idée, c'est de transférer la part des cotisations sociales, à la fois payées, ça dépend des réformes qui seront mises en place, mais la part patronale des cotisations sociales, des cotisations salariales, et la part des cotisations patronales et une éventuelle part des cotisations salariales qu'on ferait financer par la TVA. Alors, le mécanisme est relativement simple. Je ne sais pas si je rentre dans le détail un petit peu.
L'idée globale, finalement.
Alors, l'idée globale, c'est de réduire donc les cotisations patronales qui sont considérées par les entreprises comme une charge, que nous, on appelle des cotisations puisque ça vient financer les revenus de remplacement. Et une partie de la... Pour certains, c'est dans le cadre des dernières choses qui sont envisagées par le gouvernement, une part des cotisations salariales. Ce qui permettrait pour le gouvernement de financer la protection sociale via cette augmentation de la TVA sociale, tout en abaissant ce que les entreprises appellent leurs charges. Alors, en fait, l'idée, c'est de réduire le coût du travail pour les entreprises et de transférer le coût, finalement, sur l'ensemble des ménages et des citoyens, des consommateurs. Alors, en fait, l'idée sous-jacente, c'est que ça permettrait de financer l'activité économique. C'est-à-dire qu'en réduisant le coût du travail, la production des produits pour les entreprises serait réduite. Et donc, du coup, ça permettrait de faciliter les exportations. Et à contrario, ça augmenterait le prix des produits importés. Sauf que dans l'affaire, c'est le consommateur qui va payer une augmentation de TVA. Donc, il verra peut-être son panier se réduire. Et il paiera éventuellement une deuxième fois, puisqu'il faudra qu'il finance par la TVA ses revenus de remplacement, donc s'il est malade, s'il part en retraite, etc. Alors là, il y a un fort risque, et pour le coup, pour que ça marche, il faudrait que la totalité de ces réductions et de suppressions de cotisations sociales soit complètement reprise dans le coût de revient des produits ou le coût de production des services. Il y a de fortes chances que dans la réalité, ce ne soit pas le cas. Il suffit de voir l'exemple de la baisse de la TVA sur la restauration. Donc là, ça marcherait dans l'autre sens. Mais on s'est bien rendu compte que la baisse de la TVA sur la restauration ne s'est pas répercutée ni sur le prix des produits, ni sur une embauche plus importante de salariés.
Donc c'est le lien direct entre une augmentation de TVA et finalement un impact immédiat sur l'économie. Et vu qu'en ce jour du 13 janvier, nous venons de perdre notre troisième A, on peut voir que les différentes réformes déjà eues, qui ont eu lieu, entre autres une augmentation de la TVA dernièrement, ont eu plutôt un effet négatif, si on veut en croire les agences de notation. Alors la TVA sociale qui a déjà été mise en place dans d'autres pays, ça fait partie de toute une gamme de cadeaux fiscaux un peu traditionnels donnés par les gouvernements sur les entreprises. Et est-ce qu'on peut juger aujourd'hui si cet impact est parfois sensible ou pas ?
Oui, et puis au sujet des cadeaux fiscaux, justement, récemment, le candidat socialiste au présidentiel a évoqué un chiffre, en tout cas sur l'ensemble de ces cadeaux fiscaux, en évoquant à la fois le paquet fiscal, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires, la création d'un crédit d'impôt pour les emprunts immobiliers, la forte baisse des droits de succession et le bouclier fiscal, tout ce qu'on a évoqué précédemment, la suppression de la TVA dans la restauration et la suppression de la taxe professionnelle. Et le chiffre évoqué est assez impressionnant, puisqu'il s'agit de 75 milliards d'euros. Alors, quelle que soit l'exactitude ou non de ce chiffre, est-ce que au moins on peut se consoler en se disant que ces cadeaux fiscaux ont quelque part un impact positif sur l'économie ?
Alors, en fait, je pense que le chiffre de 75 milliards correspond en fait à un chiffre sur plusieurs années. C'est un chiffre de cadeaux qui est cumulé sur plusieurs années. Donc, la loi TEPAL remonte à 2007. Donc, je pense que dans ce cadre-là, on peut dire que les 75 milliards, c'est...
Sur les 5 ans.
Pas pour tout, mais enfin en grande partie. Donc, en fait, l'idée sous-jacente pour le gouvernement, c'est qu'il faut renforcer la compétitivité des entreprises. Donc, par différents biais. Donc, effectivement, par le biais d'une TVA sociale, par exemple, c'est le discours qu'on nous tient. Ça va renforcer la compétitivité des entreprises. Et il en a été de même, en grande partie, pour ce qui a été mis en place concernant la fiscalité des entreprises. Or, il faut savoir que l'idée sous-jacente, c'est qu'en gros, les profits des entreprises d'aujourd'hui feront les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça, c'était le théorème de Schmitt dans les années 80, si je me souviens, 80-90, repris par Margaret Thatcher. Or, en fait, on se rend compte que malheureusement... les réductions d'impôts qui ont été accordées aux grandes entreprises ont plutôt servi à financiariser l'économie plutôt qu'à faire des investissements dans la production réelle et créer de l'emploi, puisque les taux de chômage sont extrêmement importants. J'ai plus de chiffres en tête de la dernière statistique, mais on commence à atteindre des niveaux de chômage qui deviennent extrêmement importants. Donc, effectivement, on se rend compte que les mesures qui ont été prises sur les entreprises n'ont pas forcément eu les impacts souhaités par le gouvernement sur l'augmentation de la production et la compétitivité des entreprises françaises. Parmi les cadeaux faits aux entreprises, on peut aussi reprendre, puisque dans la loi TEPA, il y avait les exonérations des heures supplémentaires. Donc, il y avait à la fois un côté sur l'impôt sur les sociétés et à la fois en matière sociale, donc via le même mécanisme que ce qui serait mis en place pour la TVA sociale, via l'exonération des cotisations sociales. Or, les études montrent qu'effectivement, ça n'a pas eu d'impact et d'effet sur l'activité économique, puisqu'on n'a pas vu une réduction du chômage.
Alors, on finit, si on veut résumer bêtement, toutes les cadeaux fiscaux aux entreprises n'ont pas eu d'impact mesurable à ce jour, que ce soit en France ou ailleurs.
Alors, je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être eu un effet. Il faudrait regarder plus précisément. Il faudrait examiner l'ensemble des mesures une par une. Mais effectivement, celles qui ont été mises dans le rapport et dans le chiffre là montrent ou ont tendance à montrer que malheureusement, ça n'a pas eu d'effet.
Et alors, en plus de ces cadeaux fiscaux, finalement, il y a un autre type de cadeau qui existe, c'est l'existence de paradis fiscaux et puis les mécanismes de fraude fiscale. Alors, j'avais trouvé un chiffre qui disait qu'il y aurait 12 milliards de dollars qui se retrouveraient globalement dans le monde dans les paradis fiscaux. Il y aurait une cinquantaine de pays qui seraient spécialisés dans la défiscalisation partielle. Alors ça, c'était avant
avant le G20 de Londres et celui de Cannes. Et c'est autant d'argent qui ne participe pas finalement au financement des services publics, des transports collectifs, de la solidarité internationale, pardon, au sens large. Alors, depuis, il y a eu le fameux G20 de Londres. Sarkozy nous a dit à ce moment-là que c'est bon, les paradis fiscaux, c'était terminé. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les paradis fiscaux, c'est terminé? On a du mal à le croire.
Alors, je pense que si on regarde ce qui s'est passé au G20 au mois de novembre, on se rend compte qu'effectivement, les paradis fiscaux, c'est loin d'être terminé. Donc, les chiffres de fraude fiscale pour la France, c'est entre 40 et 50 milliards, les estimations. Alors, il faut savoir qu'il y a une grosse partie de cette fraude ou de cette évasion, les deux, la fraude et l'évasion fiscale, qui passe par les paradis fiscaux, puisqu'en fait, les paradis fiscaux sont des pays qui, à cause de leur réglementation fiscale, financière et judiciaire, permettent de transférer on va dire tous les profits issus d'opérations illicites la fraude fiscale en fait partie. Donc en fait les chiffres d'utilisation des paradis fiscaux, je crois qu'il y a la moitié des transactions financières, si je dis pas de bêtises, qui passent par les paradis fiscaux, donc c'est énorme. Donc effectivement, il faudrait pouvoir les remettre en cause. Alors, on va dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises après le sommet de Londres, mais malheureusement, elles n'ont pas forcément eu un effet extrêmement important, puisqu'on a modifié la réglementation, notamment sur les listes. Donc on a fait sortir la plupart des pays, des paradis fiscaux de ces listes noires ou grises où étaient mis un certain nombre de pays. Mais force est de constater que on a modifié notamment les conventions fiscales pour obtenir des renseignements pour pouvoir lutter contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux. Or, ces conventions, pour l'instant, ne sont pas toutes signées. Il y en a qui ont été écrites, mais elles ne sont pas encore ratifiées, donc elles ne sont pas signées. Et on se rend compte que quand on demande à bénéficier donc de renseignements suite à l'utilisation de ces conventions fiscales, force est de constater que les renseignements qu'on nous fournit sont des renseignements que les administrations ont déjà et n'arrivent pas forcément à avoir des renseignements complémentaires qui leur permettraient de lutter efficacement contre la fraude fiscale.
Donc, ce qui veut dire que finalement on a rayé des pays de la liste noire, mais sans aucune garantie sur l'application de nouvelles règles de la part de ces pays.
En fait, les conventions sont signées, elles sont appliquées, mais derrière il faudrait avoir peut-être des indicateurs qui permettent de regarder dans quelles conditions ces conventions sont appliquées et si on les applique et qu'on obtient les renseignements qu'on souhaiterait obtenir, qui permettraient de voir si effectivement il y a fraude ou pas fraude.
Alors la fraude, il y en a qui la connaissent bien et qui savent s'évader dans des paradis fiscaux avec leur parachute doré. Alain Souchon.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant. Mes pouces en vase à coups, les douces, la pilule, on va se l'adorer. J'ai le parachute.
Le parachute doré, Alain Souchon, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée aujourd'hui par l'équipe altermondialiste de l'association ATTAC et du journal Le Piaf. Et nous avons reçu Florence Touquet, secrétaire nationale du syndicat unifié des impôts et du trésor. Et nous avons longuement évoqué la répartition de l'impôt, l'utilisation de l'impôt, les réformes actuelles du gouvernement. Et on peut peut-être finir par une conclusion un peu plus politique.
Alors effectivement, les impôts, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est la citoyenneté et c'est aussi des choix politiques en termes de redistribution des richesses ou de répartition des richesses et de financement des services publics. Donc on pourrait dire l'école, les transports, la santé. Donc d'où l'importance de se préoccuper du niveau d'impôt, du niveau des recettes et de qui paye et de l'utilisation des recettes des finances publiques vers des choix économiques, peut-être liés à l'emploi et vers du développement durable, des choses comme ça. C'est peut-être là-dessus qu'il faut intervenir maintenant en tant que citoyen.
C'est recréer, si je veux le redire avec mes mots, le lien entre je sors un chèque de ma poche, de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, pour qu'il aille demain agir politiquement de manière peut-être plus écologique, plus solidaire, plus sociale. Et justement, un autre impôt qui est évoqué dans les médias actuellement, ce sont les fameuses taxes internationales, taxes financières, qu'on appelle aussi taxes Tobin, que va nous évoquer Makeli.
Oui, parce que le gouvernement énerve quand même beaucoup ces derniers temps avec cette histoire de taxes sur les transactions financières, couramment appelée taxes Tobin, même si la taxes Tobin initiale n'était pas tout à fait de cet ordre-là. Et il énerve parce que il fait des volte-face sans arrêt, et il annonçait début janvier la création d'une taxes Tobin au niveau de la France avant fin 2012. Mais comment, à quelques mois des élections, est-ce qu'on peut voir autre chose par là qu'une grossière manipulation politique et qu'un coup médiatique pour tenter de berner les électeurs? Cette annonce est en effet incohérente avec la politique fiscale du gouvernement Sarkozy depuis 2007. On l'a largement évoqué tout au long de cette émission. Alors, pour pas voir les choses complètement en noir, on peut dire quand même que la taxe Tobin fait son chemin au Parlement européen, qui a acté le principe d'une taxe sur les transactions financières, et la Commission européenne s'est également déclarée favorable à l'instauration d'une telle taxe. Alors, pas d'euphorie toutefois, on n'y inclut pas forcément l'ensemble de ces transactions financières, et notamment pas les transactions sur les devises dans le projet de la Commission, et l'adoption définitive de ce projet reste très incertaine. Et en France, on peut dire que le nouveau Sénat de gauche a adopté le projet d'une taxe visant l'ensemble des transactions à compter du 1er juillet 2012. Mais tant que l'Assemblée nationale reste à droite, les choses restent quand même très en suspens. Alors, une vraie taxe sur les transactions financières pourrait rapporter 200 à 300 milliards d'euros par an au niveau européen, ce qui pourrait servir notamment à financer le fonds de lutte contre le changement climatique, l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation dans les pays les plus pauvres, etc. Alors, toutefois, les altermondialistes et en particulier ATTAC, qui réclament depuis longtemps et depuis plus de 10 ans l'instauration d'une telle taxe, rappellent que cette taxe ne va pas tout régler elle seule et qu'elle doit s'accompagner de mesures plus vastes comme le contrôle démocratique des banques, la séparation entre banques de dépôt et banques d'affaires, la lutte contre les paradis fiscaux, etc.
Et on termine, comme d'habitude, par l'agenda. Et l'agenda qui commence dès ce dimanche, vu qu'il y a une actualité altermondialiste très forte ce dimanche 15 janvier.
Oui, ce dimanche, ATTAC, et en particulier en partenariat avec Mediapart, organise une journée sur la dette, leur dette, notre démocratie, le 15 janvier, donc à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard, au métro Montgallet. L'entrée est libre et gratuite.
Ce même jour, le dimanche 15 janvier à 14h, il y a un théâtre débat organisé par Frédéric Lordon. C'est une pièce de Frédéric Lordon, d'un retournement l'autre.
Alors, il y a aussi une assemblée générale des indignés le 15 janvier 2012 à 15h au 120 Pablo Picasso à Nanterre.
Le 17 janvier, il y a un rendez-vous et une manifestation devant la CAF du 101 rue Nationale dans le 13e sur le thème d'une manifestation unitaire qui aura lieu aussi le mercredi 18 à 14h. Plutôt que la TVA antisociale, prenons le TVA, très vite augmenter les salaires. La grande manifestation du 18 part à 14h de la place de la Bourse.
Et le 19 janvier à 19h, comment le citoyen peut-il trouver une information libre et pluraliste à la médiathèque Marguerite Duras, porte de Bagnolet, 115 rue de Bagnolet?
Ah d'accord, on a sauté le mercredi 18 janvier, écologie et capitalisme, bar-restaurant Le Lieu-dit, métro Ménilmontant, débat organisé par les revues Contre-temps et La Décroissance et Écologie politique. Voilà, c'est l'agenda de la semaine prochaine. Il y a d'autres dates. N'hésitez pas à regarder les agendas des journaux, comme par exemple le journal Le Piaf, qui vous fournira toutes les dates altermondialistes du mois de janvier. On termine par le thème de la prochaine émission, qui vendredi prochain, Mode d'emploi, parlera de femmes de l'immigration dans le travail précaire, à partir d'un livre de Odile Merclin, en présence de l'auteur. Et nous remercions Florence Touquet d'avoir bien voulu participer à cette émission, Magali et Jean-Marc qui nous a quittés il y a déjà une vingtaine de minutes, et nous terminons en beauté avec
Tribeca.
Yes, I'll be here.